Bonjour à toutes et à tous. La semaine dernière, ouvrant mon investigation sur le lexique grec de la sacralité, j'ai mentionné la palinodie de Jean Rudart entre sa thèse de 1958 et la réédition de l'ouvrage dans les années 90, puis les opéras inédita de 2008. En 1958, il associait l'adjectif hieros à la puissance en tant que réalité indépendante des choses où elle se manifestait et se concentrait et qui était donc, dans cette première version, je dirais, de la réflexion de Rudart, indépendante des dieux eux-mêmes. En 1992, il estimait avoir commis une erreur à cet égard, sans vraiment s'en expliquer dans l'espace restreint d'une préface, puisqu'il s'agissait de la préface à la réédition de son ouvrage. Heureusement, un chapitre inédit d'un essai inachevé sur la religion grecque venait donner corps à cette allusion et la préciser. En bref, les dieux s'étaient interposés entre les choses sacrées et une puissance générique dont Rudart réfutait désormais le caractère trop abstrait. Nous avons approché ce qu'il en était des relations entre la sacralité et les dieux au cours des deux leçons précédentes. Jusqu'ici, je n'ai pas évoqué l'étymologie du terme. Donc, hieros toujours, comme vous le voyez dans le titre de la leçon. Même si je ne considère pas qu'une telle information, donc l'étude de l'étymologie scientifique, soit un passage obligé et que, étant donné, enfin, même si je favorise généralement les usages d'un mot, voire les parétymologies élaborées par ceux qui l'emploient, l'approche étymologique de hieros donne à penser, et c'est une vertu précieuse. Si je prends le temps de ce détour, c'est qu'il engage quelques emplois homériques de hieros dont je n'ai pas encore parlé jusqu'ici. Voyons d'abord un passage du chant 16 de l'Iliade. Quand Patrocle, revêtu des armes d'Achille, fait un carnage dans le camp troyen. Donc c'est le moment où Achille est toujours retiré du combat, mais où Patrocle, lui, va aller soutenir ses compagnons d'armes. Et voici ce que décrit Homère en ce chant 16, au vers 406-409. Il parle de Patrocle, le tira au bout de sa lance, à savoir son adversaire troyen, par-dessus la rampe du char, comme un homme assis sur un rocher avancé, sort de la mer un poisson hieros, avec le fil et le bronze étincelant. Ce poisson hieros a suscité une grande perplexité parmi les interprètes du passage. Deux types d'explications ont généralement été avancées. La première voie consistait à faire de cette qualification une référence au statut sacrificiel de l'animal et à le ramener ainsi dans le champ sémantique de la propriété divine. La seconde voie consistait à se fonder sur l'étymologie pour conclure que les emplois homériques, dont ceux que nous avons vus les semaines précédentes, enfin la semaine passée, conclure donc que les emplois homériques reflétaient en fait deux mots différents, d'origine différente. En général, quand on ne s'en sort pas dans une explication, ben voilà, on essaye de trouver une issue en concevant des origines différentes. C'est également ainsi qu'ont été compris les emplois formulaires de hieros, qui s'insèrent dans l'évocation de Télémaque et du roi Alcinoos dans l'Odyssée. Ce sont des expressions bien connues. Hierè is telemakoio ou hieron menos alkinoio, et souvent traduit pour le premier par sa sainte force Télémaque dans les traductions un peu traditionnelles de l'Odyssée, donc expression qui arrive en fin de vers, ou le fort et vigoureux Télémaque ou le jeune vigoureux, puisque is désigne la force. Quant à hieron menos alkinoio, lui aussi en fin de vers, avec une variante hieron menos antinoio, donc antinoos et plus alkinoos, au chant 18. Donc à nouveau le fort alkinoos, le vaillant alkinoos. Alors menos difficile à traduire, hein, étant l'une des expressions de la vitalité au sens large. On reverra le terme dans un passage ultérieur. Quant aux lexicographes anciens, ils avaient réglé le problème, en tout cas du poisson hieros, en affirmant que chez les anciens, comprenez les poètes comme Homère, hieros était synonyme de grand, de mégas. Le poisson hieros de l'Iliade était donc un grand poisson. On voit à l'écran deux gloses d'Hésychius à cet égard, qui rabat en fait hieros sur mégas, et plus précisément le lictus hieros en tant qu'un grand poisson. Donc, mais on retrouve mégas. Et la Souda aussi, qui définit hieros comme étant un synonyme de théos ou de mégas. Donc, on voit que les lexicographes plus récents ont essayé de s'en sortir en attribuant ce sens à l'adjectif. Alors, je vais m'arrêter un moment sur ces questions qui vont, avec toute la prudence nécessaire, nous ramener à la notion de puissance. Que dit l'étymologie, puisque je vous ai annoncé un détour par cette voie? Le très grand savant qui était Jacques Duchesne-Guillemin a publié dans les années 1930 un bref article qui reste sans conteste l'analyse étymologique la plus claire et la plus pertinente sur hieros. Vous voyez ici le grec hieros, le sanskrit chira, dans l'annuaire de l'Institut de philologie et d'histoire orientale et slave, et c'est en fait le premier tome des mélanges Boissac. Alors, je résume à grands traits les acquis de cette étude de Duchesne-Guillemin. D'un point de vue formel, selon lui, le mot grec hieros est à rapprocher du sanskrit chira, qui a le sens de fort, vigoureux, puissant, que l'on a, dès avant l'étude de Duchesne-Guillemin d'ailleurs, distingué de l'adjectif hieros traduit par sacré et dont l'étymologie serait à chercher ailleurs. Ce sont les deux voies que j'évoquais il y a un instant. Et c'est à évaluer la pertinence de cette dissociation que s'attache l'article en posant deux questions. Première question posée par Jacques Duchesne-Guillemin, le sens du sanskrit ishira est-il assuré? Deuxième question, le sens de fort, vigoureux, puissant, bien attesté pour ishira, est-il inconciliable avec le sens de sacré que hieros a incontestablement en grec? En clair, ces deux questions se ramène à une seule, faut-il concevoir deux origines différentes pour le terme ou n'a-t-on affaire qu'à un seul et même mot? Pour répondre à la deuxième question, c'est-à-dire celle de savoir si le sens de fort et vigoureux est inconciliable avec le sens de sacré, pour répondre donc à cette deuxième question, Jacques Duchesne-Guillemin produit d'intéressants parallèles en vieux slave, en avestique, dans les langues germaniques. Et je n'évoquerai que ces dernières, par facilité, les langues germaniques, dans la mesure où l'on y trouve le terme « heil », qui signifie originellement « intact »,« entier », sous forme adjectivale, et aussi « santé »,« bonheur », sous forme de substantif. Et si je prends plus précisément cette racine dans les langues germaniques, c'est évidemment parce que nous avons parlé lors de la troisième leçon quand j'évoquais l'ouvrage de Rudolf Otto, souvenez-vous du titre, c'était Das Heilige, et on voit bien que c'est cette racine qui est en cause. Dès lors, conclut Jacques Duchesne-Guillemin sur ce point, et je le cite, « Il n'y a aucune nécessité sémantique à poser deux hieros différents. Si l'on trouve à ce mot les deux sens de fort et de sacré, il peut n'y avoir là qu'un fait banal de polysémie, hein, puisque justement les mots de la racine de Heil dans les langues germaniques possèdent ces deux dimensions. Voilà, il n'y a pas de raison de ne pas rabattre en fait ce constat sur hieros en grec. Quant à la première question sur le sens d'ishira, elle est plus complexe, car, nous dit Jacques Duchesne-Guillemin, puisque je ne suis pas sanskritisante évidemment, donc je le suis vraiment très scrupuleusement sur ce point, le sens ne se révèle pas immédiatement à l'interprète. Il s'agit de l'un de ces cas peu favorables, dit-il, où l'on ne peut faire appel à la signification pour établir l'étymologie, mais où une hypothèse étymologique contribue à la compréhension de passages du texte védique, de passage du texte védique au grec, mais texte védique où les emplois du mot ne sont pas forcément limpides. Partant des étymologies proposées avant lui pour Ishira et de la lecture d'une petite trentaine de passages où il apparaît, le savant liégeois livre de bons arguments pour considérer que dans les emplois même d'Ishira auxquels Hieros est à rattacher, on trouve des potentialités sémantiques qu'attestent les usages du terme dans l'épopée. Ainsi, dans les passages qu'il évoque, d'une part, on trouve l'impétuosité des mouvements, leur rapidité, mais aussi la puissance d'une voix ou l'éclat de la lumière. D'autre part, la vigueur exceptionnelle, donc Ishira peut aussi traduire la vigueur exceptionnelle conférée à ce qui est associé au divin. Ainsi, nous dit Jacques Duchesne-Guillemin dans l'article, la terre peut-elle être qualifiée de grande et sans limite, bienveillante et Ishira, que l'on peut comprendre comme vigoureuse, bienfaisante. Et donc, une variation sur le même thème se trouve encore dans l'idée d'efficience que peut aussi receler le terme de sanskrit dans une série d'emplois où il se réfère, je cite Duchesne-Guillemin une fois encore, aux dispositions les plus propices à l'accomplissement du sacrifice. Donc on voit bien qu'on peut se retrouver dans toute une série de configurations où Hieros est aussi attesté en grec. Et il conclut, je le cite, « En somme, dans plus de la moitié des passages où est attesté Ishira, il présente des significations qui, quoique difficiles à déterminer d'une manière objective, ne peuvent cependant passer pour totalement étrangères aux diverses acceptions qui ont évolué dans d'autres langues, et peut-être en grec, vers la notion de sacré. » Dès lors, le poisson de l'Iliade, qui sort de l'eau en se débattant vigoureusement pour échapper à l'hameçon, fait montre d'une vigueur exceptionnelle, et c'est ce qu'indiquent aussi les formules stéréotypées que je viens d'évoquer devant vous, qui évoquent la vigueur, la jeune vigueur de Télémaque et la force vitale des protagonistes dont le ménos est ainsi qualifié. Si l'on suit Duchesne-Guillemin, ce que je fais volontiers, vous l'aurez compris, il ne s'agit pas de mots différents, mais d'une polysémie dont l'épopée a clairement conservé la trace. Afin de tirer toutes les conséquences de ce constat, pour la conception même de la sacralité induite par l'adjectif « hieros », voyons comment il s'applique au sein même du monde des dieux dessiné par les poètes, et c'est ce que j'avais annoncé la fois dernière. Donc, vous voyez, passage par l'étymologie, où on voit se mêler étroitement, et c'est pour ça que ce passage est... ce détour était intéressant, les notions de puissance, de vigueur, de manifestation de cette puissance, et puis cette notion de sacralité, de hieros, rapport au dieu. Nous allons donc aller maintenant dans le monde des dieux, dépeint par Homère et Hésiode, afin de voir comment s'articule l'adjectif aux différentes situations où les dieux sont en scène. Alors, plusieurs usages de l'adjectif dans la théogonie méritent qu'on s'y arrête. Quand elles chantent, quand les muses, dont parle Hésiode dès le prologue de la théogonie, chantent sur l'Olympe, elles évoquent toute une série de dieux nommément identifiés. On a les noms dès le prologue, on a le nom de tous les dieux que chantent les muses. Mais elles chantent aussi, je cite le vers 21 de la théogonie, alors je ne traduis pas tout de suite tous les mots, le genos hieron des autres immortels qui toujours sont. Donc allon, tanaton, hieron, genos, aein, eonton. Donc hieron, genos, je l'ai laissé pour le moment non traduit. Alors bien sûr, il s'agit des dieux, à partir du moment où on parle des athanatoi, nous avons affaire aux dieux. Mais nous avons vu précédemment, c'est ce que je vous ai dit la semaine dernière, que les dieux eux-mêmes n'étaient pas qualifiés de hieroi. Ce qui est en jeu ici, c'est le genos, dont je retarde encore la traduction et auquel j'associe immédiatement un autre passage similaire, toujours dans la théogonie, mais cette fois au vers 346, où la descendance d'Okeanos et de Thétis est notamment constitué par le genos hieron, là encore, je suspends la traduction, le genos hieron des jeunes filles, kuraon hieron genos. Donc celles qu'on appelle familièrement les océanides ou les océanines. Là encore, ce ne sont pas les océanines comme telles qui sont hierai, mais bien l'ensemble qu'elles forment du fait de leur ascendance commune et de la puissance que cette multitude confère au groupe lui-même. Dans une théogonie comme celle que dessine Hésiode, l'engendrement est lui-même un phénomène hieros. Je le répète, c'est à genos qu'est associé l'adjectif. Et l'on renoue ici avec les formules déjà évoquées de puissance et de vigueur quand l'adjectif est associé à is ou à menos dans le cas de Télémaque et d'Alcinoos. C'est le déploiement de la puissance génésique et avec elle la multitude des dieux qui est ainsi qualifiée, que ce soit pour l'ensemble des immortels célébrés par les muses ou pour l'abondante descendance que produit l'union d'Okeanos et de Tétis. Je donnerai une interprétation dans le même registre, un autre passage, toujours dans la théogonie, où Cronos avale, tout rond, ses enfants, les enfants que lui donne sa sœur-épouse Rhea, dès qu'elle accouche, et nous dit le poète au vers 459-460 de la théogonie, « Et cela, le grand Cronos, les avalait tout rond, sitôt que chacun quittant alors, là j'ai traduit le ventre sacré de sa mère, donc on voit à l'écran hein, l'adjectif hieros, le ventre sacré, on va voir si c'est pertinent, donc quittant le ventre sacré de sa mère, donc sitôt que chacun arrivait à ses genoux. C'est la puissance d'engendrement de la mère des dieux qui est ainsi exaltée. Son giron est le lieu où se manifeste cette puissance. » On peut aussi s'interroger, je poursuis mon enquête, on peut aussi s'interroger sur la qualité de hieros que le poète attribue aux diverses couches qui voient s'unir Zeus à des partenaires dont il a des enfants. C'est le cas dans deux passages de la Théogonie toujours, respectivement au vers 56-57 et 938-939. Le premier passage évoque l'engendrement des muses, car pendant 9 nuits, récite le poète, pendant 9 nuits, Zeus, maître de l'idée, s'en venait s'unir à elle, à l'écart des immortels, montant sur sa couche Hieron, Hieron l'Écos, nous dit le texte grec. Même chose dans le passage suivant pour l'engendrement, la conception d'Hermès. Mais à Zeus, dit le poète, la fille d'Atlas Maïa, enfanta Hermès plein de gloire, héros des immortels, après être monté sur sa couche Hieron, on retrouve le Hieron, l'Écos, du passage précédent. Alors évidemment, l'adjectif pourrait exprimer que l'on a affaire à la couche d'une déesse et qu'elle est dès lors sacrée au sens qu'elle lui appartient. Mais n'est-ce pas plutôt ou également une manière de qualifier le lieu où se manifeste la puissance génésique de Zeus? La qualité hieros du genos, que l'on a vu précédemment à la fois pour les dieux immortels et pour les océanines, m'invite à le penser, ou à tout le moins à poser l'hypothèse. Dans un autre contexte, c'est ce qui s'exprime aussi, cette puissance, alors moins génésique, on va le voir, que puissance tout court, mais la puissance de Zeus dans l'évocation de la titanomachie. Nous sommes au vers 687-693, c'est le conflit de Zeus et des Olympiens contre les titans, et donc en une scène épique au sens que nous donnons à ce terme, on voit Zeus, et je cite le poète, Zeus, alors, cessa de brider sa vigueur, et on retrouve ici la notion de ménos, qu'ici Brunet, dont j'emprunte la traduction, j'ai conservé la notion de vigueur, donc le ménos. Le chronie, dès que son cœur fut plein de vigueur, ménos à nouveau, montra tout entière sa violence, à la fois du ciel et du haut de l'Olympe, il allait foudroyant sans relâche, et les coups de la foudre volaient au but, guidant l'éclair suivi du tonnerre et de sa main nerveuse, versant la flamme hierai, je laisse ici pour le moment la forme grecque, dru tournoyante. Donc scène de violence inouïe. Et la flamme dont il est ici question, Hieren phloga, donc Eiluf phauntos, nous dit le grec, la flamme dont il est ici question est la manifestation visible de la puissance de Zeus dans le monde d'avant les hommes que dépeint cette partie de la théogonie. Je vais évidemment revenir sur ces passages. Alors, à ce faisceau d'éléments, donc pour le moment, je suis restée dans la théogonie et chez Hésiode, à ce faisceau d'éléments, j'ajouterai un passage de l'Iliade que j'ai laissé de côté jusqu'ici. Au chant 15, Héra, la déesse Héra, est amenée à prononcer un serment solennel afin de prouver sa bonne foi face aux accusations que Zeus porte contre elle. C'est un énième conflit entre le roi et la reine de l'Olympe. Elle invoque pour ce faire la terre et le ciel, l'eau du Styx, la tête Hiera de Zeus et leur couche nuptiale, je lis la traduction, « qu'ici m'en soit témoin, et la terre et le vaste ciel sur nos têtes, et les ondes du Styx dans leur chute », le plus grand, le plus terrible des serments pour les dieux bienheureux, le serment par le Styx était celui qui contraignait les dieux, « et ta tête Hiera, dit-elle à son époux, et le lit de notre légitime hymen. » Donc la tête de Zeus est ici qualifiée de Hiera, Hiera Kephalé, à l'instar du ventre de Rhea dans la Théogonie. La tête Hiera du dieu est le siège d'un aspect remarquable de sa puissance, à savoir sa boulet, sa volonté, que la déesse Héra a précisément mise à l'épreuve juste avant, en le séduisant pour l'endormir et laisser libre cours à l'appui que Poséidon accordait alors aux Achéens sur le champ de bataille contre l'injonction de Zeus lui-même. Donc juré par la puissante tête de Zeus, parce que là, je préfère traduire Hieros, ou Hieré en l'occurrence, par puissant, la puissante tête de Zeus est une ironie mordante de la part d'Héra dans ce serment qui n'est pas tout à fait un parjure, mais un bel accommodement avec la vérité. Elle a bel et bien détourné l'attention de Zeus et bafoué sa volonté pour favoriser les Achéens. Dès lors, dans le monde des dieux tel que le dessine Hésiode, je reviens à Hésiode avant de repartir vers l'Iliade, dans le monde des dieux tel que le dessine Hésiode, la flamme répandue par le dieu, par Zeus, est la manifestation visible de sa puissance, que le contexte spécifique d'un conflit cosmique rend particulièrement violente. Dans l'Iliade, cette tête Hiera, par laquelle Héra jure de sa bonne foi, est le lieu de la puissance du dieu. Mais un autre attribut du dieu, dans l'Iliade toujours, donc je fais des va-et-vient entre les deux épopées, peut être lui aussi qualifié de Hieros. Il s'agit des plateaux de la balance, qui signifie l'équilibre entre les biens et les maux destinés aux mortels. Sarpédon, donc je donne le contexte de ce passage du chant 16, vers 658, Sarpédon, le fils mortel de Zeus, est tombé sous les coups de Patrocle et le combat fait rage autour de son cadavre. Les Troyens refluent finalement et Hector reconnaît dans ce repli le résultat d'une décision divine. Et c'est pour ça que le poète écrit, enfin, le poète exprime, car il reconnut les balances Hiera, Hiera Talenta, les balances sacrées, on va dire en première approche, de Zeus. Les plateaux de la balance divine par lesquels Zeus scelle le destin des mortels, alors encore une fois, on pourrait dire que c'est simplement parce que ça lui appartient, comme je l'ai dit pour le Lécos tout à l'heure, pour la couche, mais fondamentalement, cette balance, ces talenta sont le symbole de sa puissance de Moira Getes, de conducteur des parts allouées aux hommes, dans le délicat équilibre des biens et des maux dont je vous ai souvent parlé quand nous avons réfléchi ensemble à la question du daimon. Les Hiera talenta ne sont pas un signe moindre de sa puissance que ne l'est la flamme de son foudre, puisque ce n'est rien moins que la destinée des humains qui est alors en jeu. Alors, si j'ai réuni ces occurrences de la théogonie en leur adjoignant le serment d'Héra et la balance de Zeus dans l'Iliade, c'est qu'elles placent toute la qualité de Hieros dans la sphère divine, conduisant les interprètes que nous sommes à nuancer quelque peu et donc à enrichir la vision de ce qui est Hieros parmi les hommes qui nous a d'abord retenus, en l'occurrence la semaine dernière. Comment comprendre que le génos des dieux et des océanines soit qualifié de Hieros? Vous avez tous les passages sous les yeux. Comment comprendre donc qu'il soit qualifié de Hieros, ce génos, ainsi que le ventre de Rhea, la mère des dieux en train d'accoucher, la tête de Zeus lui-même, voire son foudre et sa balance? Une explication recevable, je le répète, mais passablement faible, consiste à déceler dans ces occurrences un usage dont nous avons déjà parlé, à savoir l'indice d'une possession divine. Tous ces éléments sont dits sacrés, hein, conservons cette traduction pour l'instant, parce qu'ils appartiennent aux dieux, ou à un dieu, à une déesse, en ce compris les organes de la divinité en question, le ventre, la tête. Mais il faut bien reconnaître que le génos des dieux immortels ou celui des océanines entre malaisément dans cette explication. En revanche, en convoquant à nouveau les réflexions étymologiques discutées en commençant, le tableau se complexifie et la traduction de « sacré » que l'on associe non sans raison à Hieros doit prendre davantage de profondeur, sous peine de tomber dans un cercle vicieux où ce qui est divin est sacré parce qu'il est divin. Quand en 1958, Rudart parlait de puissance, il renouait en fait avec l'arrière-plan du sanskrit Ishira qu'il évoquait en passant dans une note. Mais comme il le reconnaîtrait plus tard, il concevait trop rapidement, je l'ai dit, cette puissance indépendamment des dieux. Or, les deux dimensions doivent être pensées ensemble, en refusant l'abstraction d'un sacré sous la forme d'une puissance générique, ça je vous l'ai dit déjà, mais en évitant tout autant de rabattre purement et simplement cette qualité de Hieros sur le divin en une sorte de tautologie superficielle et qui finalement ne nous aide pas à percevoir la portée de l'adjectif. Or, les usages de Hieros dans la sphère divine, tels qu'Homère et surtout Hésiode les donnent à voir, et que vous avez donc sous les yeux, attestent qu'il s'agit à chaque fois de qualifier ou bien le creuset de la puissance d'une divinité, le ventre de Rhea, la tête de Zeus, ou son vecteur, la flamme, la balance, et j'aurais envie de dire la couche où, sur laquelle... Zeus s'unit à ces femmes qui vont, enfin à ces femmes, à ces déesses qui vont engendrer des dieux, ou encore le spectacle de la puissance que traduit la multiplicité elle-même. Et il me semble que le génos qualifié de Hieron entre pour partie dans ce registre du résultat, hein, d'une puissance en l'occurrence génésique. Dès lors, quand il s'agit de traduire Hieros dans ces différents cas, sacré n'est pas faux en soi, mais il risque d'écraser l'épaisseur sémantique du terme. Il serait plus juste pour certains usages de privilégier l'adjectif puissant ou, pour faire quand même la distinction avec ce fameux grand poisson des lexicographes, l'expression divinement puissant, à moins de recourir à une périphrase, on va le voir. Je reprends les exemples qui sont à l'écran et que je viens d'évoquer de façon systématique, en proposant chaque fois une traduction. Dans le cas du génos des dieux et celui des océanines, le puissant génos me paraît très satisfaisant et la traduction de génos par lignée pour les dieux et de génération pour les jeunes filles rend compte de la puissance génésique que confère l'expression. La puissante lignée des immortels et la puissante génération des jeunes filles sont sans doute plus correctes sur le plan de la résonance de l'adjectif que la simple mention de la sacralité de la chose, qui ne veut finalement pas dire grand-chose dans le cadre de la théogonie. Quant au ventre de Rhea et la tête de Zeus, Je pense qu'on peut traduire l'expression du vers 460 de la Théogonie, donc qui parle de ce ventre de Rhéa d'où sortent les enfants que Cronos avale, le ventre où réside la puissance maternelle, plutôt que le ventre sacré de la mère. Le ventre où réside la puissance maternelle exprime véritablement ce que Hieros veut dire en l'occurrence. Même chose pour la tête de Zeus dans l'Iliade, dans le Serment d'Héra, au chant 15, vers 39. « Sed hiere kephalē, la tête où réside ta puissance », dit Héra à son époux. Ou encore les balances que Hector a reconnues quand il voit la férocité des Achéens qui défendent le corps de Patrocle, au chant 16, vers 658. Dios ira talanta, les balances où se manifeste la puissance de Zeus. Même chose pour la flamme, versant la flamme divinement puissante. C'est beaucoup plus évocateur dans le cas de la titanomachie qu'une sacralité dont on ne sait pas très bien ce qu'elle recouvrirait ici. Quant au lékos, là je vous avoue que je suis un petit peu acuia, quant au lékos, j'ai laissé sacré à l'écran, montant sur sa couche sacrée, après être monté sur sa couche sacrée, tant donc pour l'engendrement des muses que pour l'engendrement d'Hermès. Mais c'est là où j'aurais envie d'une périphrase, de recourir à une périphrase, mais bon, voilà, c'est plus une interprétation qu'une traduction. C'est le lékos, la couche où se manifeste la puissance génésique du dieu, fondamentalement. Ce qui est hieros ne renvoie donc pas à une sacralité abstraite ou à une puissance indéterminée, mais à celle des dieux, qui se manifeste par différents vecteurs. Et si l'on vient d'en voir la traduction dans leur monde, j'ai fait un crochet par toutes ces occurrences où la sacralité, enfin le caractère hieros, s'exprime dans le monde des dieux lui-même, il nous faut à présent retourner dans le monde des hommes, dépeint par les poètes, tel que nous l'avons évoqué au cours des semaines précédentes. Dans ce registre, donc celui du monde des hommes, mais toujours dans un contexte poétique, la notion de possession divine est incontestable pour toute une série d'usages, allant des objets explicitement dits hieron ou hiera d'un dieu, au sanctuaire lui-même qui est Hieron, c'est ce que nous avons vu la fois dernière. Toutefois, notre promenade dans la poésie archaïque et dans les méandres de l'histoire du mot en affine, me semble-t-il, la perception. Si un objet ou un lieu est Hieros, c'est parce qu'il témoigne de la puissance d'action du dieu. Un objet dédié et exposé en action de grâce dans un sanctuaire, et le témoignage, fut-il très modeste, nous en avons vu quelques-uns particulièrement modestes la semaine dernière, il est le témoignage d'une action divine. Son statut hieros exprime certes la propriété, la possession du dieu, la propriété à laquelle il a été intégré, la protection qui en découle, c'est une notion importante sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, mais aussi le fait qu'il porte en quelque sorte témoignage de la divinité sollicitée. Si on dépose un objet ou on suspend un objet dans un sanctuaire en action de grâce, c'est en quelque sorte la mémoire d'une intervention divine. Dans l'un et l'autre cas, donc la dédicace et le sanctuaire circonscrit par la main des hommes, on parlera évidemment à bon escient de consécration. Mais tout élément potentiellement qualifié de hieros dans le monde des hommes n'a pas nécessairement fait l'objet d'une consécration au sens plus ou moins institutionnel du terme, comme c'est le cas dans un sanctuaire reconnu. Ainsi, je reprends des passages que nous avons vus la fois dernière, passages de l'Iliade où sont dits hieroi, le blé de Déméter, et l'aire de battage où l'on sépare le grain de son enveloppe. Ce sont des passages que j'ai déjà lus avec vous la fois dernière, donc c'est le chant 11 de l'Iliade vers 631, la farine d'orge sacrée, et la comparaison du chant 5, où le mouvement des guerriers est comparé au vent qui emporte la balle du blé sur l'air hiera, l'air sacré, lorsque vannent les hommes et que la blonde Déméter sépare au souffle des vents le grain de la balle, et puis la comparaison s'achève, alors les Achéens font ceci et font cela. Dans l'entre-soi des dieux tels que le dessinent les poètes, le ventre de Rhéa ou la tête de Zeus concentrent leurs puissances respectives. Dans le monde des hommes, la puissance divine s'objective autrement, bien sûr, mais concerne toujours des compétences spécifiques. Ici, la puissance céréalière de Déméter. La farine blanche mélangée au vin pour réconforter les guerriers ou l'air de battage où se nettoie le grain sont autant de lieux de la manifestation de l'action de la déesse, et c'est ce que signifie Hieros dans ces deux cas, le second étant particulièrement explicite puisque la comparaison met la déesse en scène. Donc quand on dit l'air, quand on traduit l'orge sacré ou l'air sacré, c'est vraiment des lieux de la manifestation de la puissance divine, et pas simplement une consécration qui ne dit pas grand-chose finalement de ce que l'on entend par l'adjectif. De même, un autre passage que nous avons vu la semaine dernière, le cours Hieros de l'Alphée, au chant 11 de l'Iliade, vers 726, on avait cette mention du Hieron Roon Alphéioio, donc au milieu du jour, nous avons atteint, exprimait un des protagonistes de l'Iliade, nous avons atteint le cours, alors sacré, de l'Alphée. Là encore, la traduction par sacré que j'avais adoptée la semaine dernière fige quelque peu en la stéréotypant la perception de ce qui est en jeu. Nous avons atteint le cours divinement puissant de l'Alphée, que vous voyez, qui est la traduction que j'ai laissée à l'écran, est à coup sûr beaucoup plus évocateur. Pour conclure, je soulignerai une dimension particulière qui ressort de ces passages, à savoir la relation entre la puissance divine que traduit Hieros et les conditions même de la vie humaine que favorisent les dieux. C'est un élément que j'aurai l'occasion de nouer au fil des semaines qui vont venir. Si Hieros s'attache tout particulièrement à l'expression de la vitalité divine et à l'expression de la puissance qu'elle induit dans le monde des dieux, certaines connotations de l'adjectif appliqué au monde des hommes en offrent un parallèle en mode mineur, si je puis dire, en qualifiant, on vient de le voir, le blé de Déméter et le cours des fleuves, ou, on l'avait vu la fois dernière, les cycles cosmiques qui encadrent l'existence humaine. Il y a là derrière aussi une question de vitalité et de puissance. Et vitalité au sens propre. Afin d'étayer cette hypothèse, je ferai une brève incursion dans la poésie de Pindare et ce sera la conclusion de cette leçon. En effet, Pindare a, peut-être pas plus que tout autre, mais presque, métabolisé cet héritage épique, et donc il est intéressant d'y aller voir. Et je voudrais vous soumettre deux passages de la poésie pindarique. Le premier est extrait de la 9e Pythique, où le dieu Apollon, que Pindare met en scène, interroge le sage Chiron sur l'opportunité de s'unir à la nymphe Cyrène qu'il a aperçue en train de chasser. Et donc il a été ébloui par cette scène tout à fait inattendue d'une jeune et belle femme en train de s'affronter au corps à corps avec une bête sauvage. Et donc il veut s'unir à elle et il demande son avis à Chiron, réputé pour sa sagesse. Et le centaure, donc Chiron, l'enjoint d'en passer par la persuasion. Et donc voilà ce que Pindare, dans cette 9e Pythique, les paroles que Pindare met dans la bouche de Chiron. Je traduis le passage dans la belle traduction de Gauthier Liebermann. « Cachées sont les clés avec lesquelles persuasion habile ouvre les saintes amours », et j'ai maintenu la traduction de Liebermann. Donc, cachées sont les clés avec lesquelles persuasion habile ouvre les saintes amours, Phébus, et chez les dieux, aussi bien que chez les hommes, on a scrupule à obtenir au grand jour, dès l'abord, la douceur de la couche. Donc, vous voyez mis en évidence à l'écran en grâce, au vers 39 du poème, vous avez Yeran Philotaton, donc le génitif pluriel de Philotès, qualifié de Yera. Donc la Philotès Yera. Cette philothèse donc, dont il est ici question, et que Liberman a traduit par saintes amours, c'est en fait l'union sexuelle, qui est qualifiée donc de Yera, dans le vers 39. Là encore, nous pourrions arrêter l'interprétation au constat qu'il s'agit des amours d'un dieu, donc c'est Yeros parce qu'il y a du divin là derrière. Mais l'assimilation dans le texte, il faut y voir, je pense qu'il faut aller y regarder d'un peu plus près. L'assimilation à laquelle Chiron procède entre l'aïdos, vous voyez ici le verbe, hein, le verbe qui est utilisé au vers 41, aideont, donc l'aïdos, la retenue des dieux, et celle des hommes, donc il procède, Chiron, à une assimilation entre l'aïdos des dieux et celle des hommes en cette matière. Et cela montre, à mon sens, que le propos est plus large, plus englobant, et la signification de l'adjectif, dès lors, plus complexe. Ce passage entre en résonance avec la question de la vitalité et des conditions même de l'existence qui s'expriment notamment dans la sacralité de la nourriture, comme on l'a vu précédemment avec les céréales de Déméter. Nous avons ici évidemment changé de registre, on est dans le registre de la sexualité avec Peito, la persuasion, donc Aphrodite et les aphrodisiens en arrière-plan. Et que la sexualité soit susceptible de recevoir ce même type de qualification n'a rien qui doive étonner quand on se rappelle que le tout début de la théogonie d'Hésiode, dont on a vu qu'il installait l'alternance des jours et des nuits, la fois dernière, on a parlé de cela. Ce début de la théogonie fait juste avant cette alternance des jours et des nuits, fait naître le dieu Eros, qui, je cite le poète, nous sommes donc au vers 120-125 de la théogonie, de tous les dieux et de tous les humains, donc voyez à nouveau, dans ce cas-là, les dieux et les hommes sont joints dans un même ensemble, domptent au fond des poitrines l'esprit et le sage vouloir. En plus, dans ce passage de la théogonie, quand il est question de l'air lumineux et de l'air obscur dont nous avons parlé la fois dernière, on voit qu'ils naissent de l'union d'Éreb et d'Éther. Et vous voyez que c'est la philotès qui est à la manœuvre dans cette union entre les divinités. Et donc on voit ici cette vitalité, cet éros qui pousse à la philothèse, c'est une force cosmique, c'est la condition de la formation même du monde et de la seule forme d'immortalité à laquelle les humains peuvent prétendre, à savoir celle qui réside dans la génération. Et donc on voit à nouveau arriver cette notion de génération. Donc voilà pour le premier passage que je voulais convoquer dans l'œuvre de Pindare, où on voit donc Hieros s'appliquer à la philotès. L'autre passage que je veux convoquer provient de la quatrième pythique, qui met en scène, un merveilleux poème, qui met en scène les aventures de Jason et des Argonautes. Et le passage qui m'intéresse, au vers 127-131, dépeint le moment où le jeune héros arrive dans le royaume dirigé par Pélias, le roi illégitime qui a ravi le pouvoir aux parents de Jason. Et Jason arrive près de ses familiers, sa famille le reconnaît, et Jason les retrouve dans le cadre d'un banquet. Et là encore, je cite la traduction de Liberman que j'ai légèrement modifiée. Au moment du banquet, nous dit le poète, Jason les reçut avec des paroles douces et accomplissant comme il faut les devoirs d'un hôte. Il déployait toute réjouissance, cueillant pendant 5 jours et 5 nuits continues la fleur sacrée, il y a Hieron, là derrière, la fleur sacrée du bien-vivre, Hieron Eudzoias Auton. Donc c'est le vers 131 où on trouve cette expression Hieron Eudzoias Auton. Il me semble que ce passage ne requiert pas forcément de longs commentaires et conforte les tonalités vitalistes de certains usages de Hieros, depuis le genos Hieros des dieux immortels et des océanides, en passant par la fleur des céréales de Déméter, le puissant cours des fleuves qui fournit l'eau, et la philothèse Hiera du passage où Apollon interroge Chiron. Donc ici, on a véritablement cette association entre le bien, ce que j'ai traduit, parce que ce n'était pas la traduction de Liebermann, par le bien-vivre, Eudzoias, qui est ici au génitif, Eudzoias, Hieron, Eudzoias, Auton, la fleur du bien-vivre, donc la quintessence de ce qui rend l'homme, ce qui donne une tonalité particulière à son existence. Et donc, à nouveau, cette tonalité vitaliste extrêmement puissante et profonde. Bien, je m'arrête ici pour aujourd'hui. La semaine prochaine, nous aborderons la dimension que je vais qualifier, pour faire bref, de sociopolitique du champ sémantique de Hieros tel que l'évoque la poésie, puisque je n'en ai pas encore tout à fait terminé avec ce corpus. Merci pour votre attention.